Joyeuse Pâques à tous. Il est ressuscité. Nous servons un sauveur ressuscité et non pas un bon professeur qui est mort symboliquement pour ses semblables. Mais nous servons le Fils de Dieu qui est ressuscité des morts et a frayé une voie pour que nous fassions partie de la maison de Dieu. Et nous parlerons de cela. En raison de la résurrection de Jésus, nous devenons membres légitimes de la maison. C'est ce qui est à notre disposition. Tenez-vous prêts. Bonjour, je suis Bayless Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Bonjour. Bonjour sur la place, j'espère que vous allez bien, et peu importe d'où vous regardez ceci, nous sommes heureux que vous soyez présents. Si vous avez une Bible, ouvrez-la à l'Évangile de Jean. Nous allons nous focaliser en grande partie sur Jean chapitre 13 et Jean chapitre 17. Cette semaine, nous voyons les événements de la vie de Jésus, de sa marche vers la croix et de sa résurrection ultérieure. Et aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai dit, nous focaliser sur l'Évangile de Jean. Et je veux commencer par le chapitre 13, verset 1. Jean 13, 1. Il est dit, « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus savait que tout était sur le point de se produire, que le but de sa venue dans ce monde était sur le point de se produire. Passons immédiatement au repas de la Pâque. Puis, Jésus adressa ses dernières paroles aux disciples dans les chapitres 14, 15 et 16 de Jean. Puis il pria le Père au chapitre 17. Il avait réalisé que son heure était venue. Il était sur le point de quitter ce monde. Il allait quitter les disciples. Et il parle des choses qu'il devait savoir en avance pour être préparé. Il aborde ces points dans son dernier discours en leur endroit. Ce sera leur dernier moment avec lui, avant qu'il soit arrêté à Gethsémané, son lieu de prière, et soit soumis à un simulacre de procès avant d'être crucifié. C'était imminent, et il le savait. Il savait que tout cela allait arriver. Il leur a donc dit les choses cruciales qui étaient nécessaires pour eux, et nécessaires pour nous aussi, des choses qu'ils devaient savoir en avance et que nous devions savoir en avance. Eh bien, qu'il aborde divers sujets, ils ont tous pour dénominateur commun deux piliers principaux. Et ces deux piliers présents dans son discours sont les relations. Les voici. Par son sacrifice, Jésus nous a amenés vers le Père. Il nous a amenés le Saint-Esprit. Il nous a amenés vers le Père et il nous a amenés le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons examiner une autre chose que Jésus a soulignée à plusieurs reprises pendant son bref discours. Il s'agit de ceci. Quand nous croyons en lui, nous entrons dans une famille où nous avons un accès direct à Dieu. Pas simplement comme Dieu, mais comme notre Père aimant. En fait, du chapitre 13 au chapitre 17, il parle du Père pas moins de 44 fois, dans une courte conversation. Allons à Jean, chapitre 14, verset 1. Il dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je sais que l'image que beaucoup de gens se font de cela vient peut-être d'un livre d'enfance ou de quelque chose qu'ils ont vu. C'est du genre que Jésus serait maintenant au ciel avec un marteau, sa ceinture à outils et sa scie pour scier des planches et pour construire nos demeures et mettre des fenêtres en saphir et en diamant dans la salle de bain. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus voulait dire. Il a dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures ». Le mot « maison » signifie littéralement « foyer ». En fait, il est traduit de cette façon dans tout le Nouveau Testament. C'est le foyer ou la famille. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et le mot grec « demeure » signifie simplement « résidence ». En fait, 99% des traductions de la Bible le présentent ainsi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et je m'en vais préparer une place pour vous. Jésus dit en d'autres mots, « Je vais vous préparer une place dans la famille, une famille où Dieu est le chef de famille formidable, notre Père. » Il ne parle pas du tout d'aller préparer un lieu physique pour nous. Il parle de relations. En d'autres termes, il dit, « Il y a beaucoup de place dans cette famille, et je vais vous y préparer une place afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi, afin que là où je suis dans ma relation avec le Père, vous le soyez aussi, que vous puissiez jouir de la même relation que j'ai avec le Père. Je vais à la croix, à la tombe, et lorsque je serai ressuscité, je vais préparer une place pour vous dans la famille, dans cette maison, et vous pouvez être avec le Père comme je suis avec le Père. » Au verset 4 du chapitre 14, il dit, « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Il a essentiellement posé deux questions. « Où vas-tu ? Nous ne savons pas où tu vas. Et nous ne savons pas comment y aller. » Mais Jésus répond à ces deux questions. Il le fait dans l'ordre inverse. Au verset 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Le mot grec traduit par « au » signifie littéralement « près d'eux ». Il signifie « être tout près ». Cela fait référence à une relation proche. Personne ne vient près du Père, personne ne vient à proximité, dans une relation proche, personnelle avec le Père, à moins qu'il ne passe par moi. C'est ce que Jésus essaie de leur faire comprendre, et c'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre. C'était le but de la rédemption, pour nous faire entrer dans la famille du Père, pour nous amener à proximité, en relation avec son Père céleste. Pensez à la relation que Jésus avait avec le Père, afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi. Il a dit, « Je veux que vous ayez la même relation dont je jouis. » Pensez-y. Après ces paroles, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémané. On l'y trouve priant avec ses disciples. Et je vous lis un passage de Marc 14. Ce sera sur les écrans. Il est dit, Marc chapitre 14, versets 34 à 36. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Et il disait, « Abba Père, toutes ces choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors qu'il priait dans le jardin, plein d'agonie, il s'est écrié « Abba Père ». Le mot « Abba » signifie « Papa ». C'est le mot qu'une petite fille ou un petit garçon utiliserait tout en se glissant dans les bras robustes de son père, pour chercher la protection, le réconfort, le confort. Papa. Jésus a pu se soumettre à la volonté de Dieu parce qu'il savait que le Père l'aimait. Il l'a exprimé en disant le mot « Abba ». C'était le moment le plus critique de sa vie et de son ministère. Jésus n'avait jamais été soumis à tant de pression. En cette période de conflit spirituel, émotionnel et physique, il s'est abandonné au Père en disant, « Papa. Papa. En regardant à l'œuvre achevée du Christ, à ce que nous avons et à ce qu'il a donné, l'apôtre Paul dit ces mots dans Romains chapitre 8, verset 15. Il dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». Afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi, dit Jésus. Dans les versets suivants de Jean, où nous nous sommes arrêtés, Jésus dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » La miséricorde et la compassion que nous voyons se manifester dans la vie et le ministère de Jésus sont l'expression et la représentation exacte du cœur du Père. Nous en voyons une image au fur et à mesure que nous avançons. Jean chapitre 15, verset 1. Il a dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Lorsque je lisais ce passage avant, je me disais, « Il faut que je porte du fruit, sinon il va me retrancher. » Quoi qu'il en soit, cela ne semble pas juste. Toute branche qui ne porte pas de fruit, il la retranche. Mais en fait, le mot grec est un verbe grec traduit par « retrancher ». Et le sens de ce mot est « soulever » ou « enlever ». Élever, relever. À la fin du chapitre 13 de Jean, Pierre se vante et dit, et je paraphrase, « Seigneur, même si je dois mourir avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis entièrement dévoué à Jésus. » Jésus répond, je paraphrase, « Pierre, écoute, avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. » Et nous savons que c'est exactement ce que Pierre a fait. Il a fini par se vautrer dans la poussière du péché et du remords. Bien, Dieu l'a-t-il abandonné et retranché? Non, il l'a relevé et l'a rendu fructueux. Et si vous vous vautrez dans la poussière du regret, de la honte et du péché, Dieu veut vous relever, mon ami. Il veut vous restaurer et vous rendre fructueux. Il n'en a pas fini avec vous. Le Père n'en a pas fini avec vous. Il vous aime. Il y a un homme que Dieu a utilisé de manière marquante dans ma vie à un moment très important de ma vie. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Je l'ai entendu parler. J'étais dans le public et j'ai lu avec avidité la plupart de ses ouvrages écrits. C'était un écrivain prolifique. Et j'irai même jusqu'à dire que cette période de ma vie a été très cruciale et Dieu l'a utilisée pour m'aider à trouver ma voie et ne pas être une copie. Absolument. J'ai communiqué avec lui par courrier postal. À l'époque, le courrier électronique et les ordinateurs personnels n'existaient pas. Certains d'entre vous sont trop jeunes pour le croire, mais oui. Et j'ai été très surpris un jour en lisant un article qu'il avait écrit. Il était très honnête et disait des choses que je n'avais jamais su à son sujet. Avant qu'il n'entre dans ma vie et que Dieu l'utilise pour me transmettre certaines choses dont j'avais besoin, il avait été le pasteur d'une très grande église dans une dénomination évangélique. Et il s'était laissé entraîner dans une liaison adultère avec une femme de l'Église. Il l'a quittée, mais a recommencé avec une autre femme, et après cela, une troisième femme. Et il était si accablé par la culpabilité, il a tout avoué à sa femme, s'est repenti, mais a pratiquement tout perdu. Il a perdu son ministère, perdu son Église, perdu sa réputation, presque perdu sa famille. Et presque perdu sa femme, mais parce que sa repentance était si sincère Elle a décidé de rester avec lui et d'essayer d'arranger les choses. Et ça a marché. Et pendant des années, il a suivi un chemin très droit de restauration et a été responsable. Et il raconte comment plus tard, au milieu des années 60, il a été rempli du Saint-Esprit. Et cela a changé toute sa vie. Il a fini par redevenir pasteur d'une autre église très importante. Et ses meilleurs textes ont été écrits après cela. Et tout ce que je peux dire, c'est que je suis content que Dieu ne l'ait pas laissé dans la boue. J'ai fait partie du fruit de sa vie. Le Seigneur l'a relevé et soutenu et l'a aidé à redevenir fructueux. Jésus a poursuivi dans ce même verset, Jean chapitre 15, verset 2, il a dit « Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. » C'est-à-dire qu'il prend les ciseaux et il coupe les choses inutiles et nuisibles. Les choses qui empêcheront qu'on porte du fruit. Des choses comme les mauvaises attitudes, les mauvaises habitudes et les péchés. Écoutez-moi, il ne nous taille pas à travers des accidents de voiture, une maladie ou une tragédie. Il le fait à travers sa parole. Les branches qui sont infructueuses, il les relève et les soutient. Il les aide à devenir fructueuses, et les branches qui produisent des fruits, il les émonde, et il le fait à travers sa parole. Le verset suivant, le verset 3 de Jean chapitre 15, il a dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée ». Le mot traduit par « pur » ici est le même que celui traduit par « émondé » dans le verset précédent. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jésus dit en d'autres termes, « Maintenant, vous êtes émondés par la parole. » La Bible le dit de cette façon. Elle dit, « Vous êtes déjà purifiés et émondés par la parole que je vous ai donnée. » Il est regrettable que nous devrions parfois traverser une épreuve avant d'écouter et d'obéir à sa parole. Mais c'est toujours la parole qu'il utilise comme ses ciseaux pour nous tailler, pas l'épreuve. En fait, dans Jean chapitre 17, verset 17, dans sa prière au Père, il dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Sanctifie-les, mets-les à part, prépare-les pour le service et rends-les saints pour ta vérité. Ta parole est vérité. Il nous prépare et nous sanctifie et nous rend prêts par la parole et non par les épreuves. L'épreuve ne sanctifie pas et ne prépare pas. C'est la parole qui le fait. Et je connais beaucoup de gens, et vous en connaissez probablement aussi, qui sont pleins d'amertume, pleins de ressentiment contre Dieu et contre la vie à cause d'une tragédie. Ils ne se sont pas améliorés. Ils sont devenus amers. Mes amis, c'est la parole qui agit. Si dans une tragédie, vous vous tournez vers la parole, Dieu utilisera la parole pour vous aider, pour vous rendre meilleur et pour vous former. Si vous ne faites pas face à une épreuve ou une tragédie, Dieu utilisera la parole. Ce sont les sécateurs. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'épreuve. Jésus a précisé que le Père émonde chaque branche qui porte des fruits pour qu'elle produise davantage de fruits. Et il dit en d'autres termes, c'est par la parole que vous êtes taillé. Je sais que je viens de bouleverser la vie de certaines personnes, mais c'est dommage, c'est triste. Vous aviez besoin d'entendre cela, mes amis. Si ce que j'ai dit vous contrarie, permettez que cela fasse son effet. Bon, continuons. C'est aussi la parole qui habite dans nos cœurs, qui rend la prière fructueuse. Jean chapitre 15, verset 7, Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Il parle du fruit de la prière. Jean chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. » Et Jésus poursuit. Regardez ce verset, Jean chapitre 16, verset 23. « En ce jour-là, tout le monde dit ce jour-là. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. En ce jour, le jour du salut, le jour où vous serez membre de la famille, le jour où vous deviendrez membre de la famille avec une place à la table, vous pourrez aller directement au Père vous-même. En fait, écoutez à quel point cela devient puissant. Le verset suivant, Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Jésus nous dit, écoutez, vous pouvez aller directement à Dieu parce que votre Père vous aime. Pendant qu'il priait, Jésus chapitre 17, verset 23, Jésus a dit ceci. Il a dit, je paraphrase, « Père, tu les aimes comme tu m'aimes. » Il est difficile au cœur d'accepter cela. Jésus a souffert à cause de nos péchés et est mort pour nous, amené au Père, afin que nous puissions connaître le Père et faire partie de la famille. Pas comme un beau-fils ou une belle-fille à peine tolérée. Pas comme un invité indésirable qui est resté trop longtemps. Pas comme un étranger, mais comme un membre de la famille. Paul l'a exprimé de cette façon. Éphésiens, chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Le même mot grec utilisé dans Jean, où Jésus dit, je paraphrase, « Dans la maison de mon Père. » La maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Vous réalisez ce que Jésus a dit aux disciples. En d'autres termes, il a dit, « Écoutez, c'est la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde. C'est la raison pour laquelle je vais souffrir. C'est la raison pour laquelle je vais aller à la croix et être ressuscité. C'est pour faire de vous un membre de la famille. Pour vous préparer une place à la table, pour que là où je suis dans ma relation avec le Père, vous puissiez l'être aussi. Parce que le Père vous aime tout autant qu'il m'aime. Et ce jour-là, le jour où j'aurai accompli l'œuvre, je n'aurai pas besoin d'aller vers le Père en votre nom. Vous pourrez venir vous-même, parce que vous serez un membre de la famille. Vous aurez votre place, vous aurez une chaise à la table. Et tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. C'est incroyable, mais c'est crédible. Écoutez, le Père ne vous aime pas moins qu'il n'aime Jésus. Le Père n'aime pas plus Jésus qu'il ne vous aime. Cela semble presque insensé de dire cela, mais c'est ce que Jésus nous a dit, c'est la vérité. Ma place est à la table. Je ne suis pas un mendiant. J'ai beaucoup de respect et de révérence pour mon Père. Absolument. Nous parlons du Créateur de l'univers qui forme les étoiles et les projette. Mais pour moi, il est aussi Père. Papa. Et je peux m'abandonner à lui en toute confiance, car il est mon papa. C'est mon père. Il est votre père. C'est pourquoi Jésus est venu. Je réalise qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment, qui me regardent et n'ont jamais eu un bon père sur terre. Vous n'avez peut-être jamais connu votre père sur terre, ou bien votre père terrestre était tyrannique. Peut-être qu'il était égoïste, peut-être qu'il était colérique. J'ai des amis pour qui c'était le cas. Et certains d'entre eux ont eu des difficultés avec leur père. Ils n'ont pas reçu d'encouragement de leur père, ou alors leur père était brutal d'une manière ou d'une autre. Donc, même quand on parle de père, c'est difficile pour certaines personnes de s'identifier. Mais écoutez, notre Père Céleste est parfait. Il est parfait dans son amour. Il est parfait quand il apporte son aide. Il est parfait dans tous les domaines. Et vous pouvez lui faire confiance. Et si vous avez eu un bon Père sur Terre, écoutez, notre Père Céleste est tellement supérieur en amour, majesté et bonté que vous ne pouvez vraiment pas comparer les deux. Il vous aime et vous avez une place à la table.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.